France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
C'est la notion d'espace qui nous occupe cette semaine. Et ce matin, nous nous demandons si la philosophie a quelque chose à dire sur l'orientation. En 2016, paraissait en français aux éditions du Seuil un drôle de livre de ceux qui attirent spontanément le regard des gens comme moi qui se trouvent très nuls en orientation dans l'espace. Son titre, « Vous êtes ici, pourquoi les hommes sont capables d'aller sur la Lune et se perdent dans un parc ?» C'était signé Colin Ellard ou Colin Ellard, neuroscientifique né à Londres et travaillant désormais au Canada. Je me suis souvenue de cette excellente question en préparant avec l'équipe d'Avec Philosophie l'épisode de ce matin. Et cela a contribué à nous faire contacter Michel Lussault, géographe, qui a préfacé l'édition française de ce livre. Vous l'entendrez ce matin nous expliquer qu'en effet, notre capacité d'abstraction qui a permis aux humains notamment de développer la cartographie relève d'une toute autre intelligence que l'orientation au quotidien, aptitude que beaucoup d'animaux maîtrisent bien mieux que nous. Ils sont rares, les philosophes qui parlent explicitement de l'orientation. Emmanuel Kant a utilisé ce mot en 1786, se demandant dans un opuscule célèbre ce que veut dire « s'orienter dans la pensée ». Et la notion d'espace est centrale dans son analyse du sujet humain. Mais à défaut du mot, l'enjeu, si on cherche bien, s'observe ici ou là, dans l'histoire de la philosophie. Et cet enjeu n'est pas mineur du tout, vous allez voir. Bonjour Michel Lussault.
Bonjour.
Vous enseignez la géographie à l'École normale supérieure de Lyon. Vous avez beaucoup écrit sur les lieux, sur la façon dont nous y cohabitons, dont la lutte de classe y prend volontiers la forme d'une lutte de place, dites-vous dans un des titres de vos ouvrages. Bref, sur l'homme spatial, et c'est encore une référence au titre d'un de vos livres. Pour vous accompagner dans cette discussion ce matin sur l'orientation dans l'espace, qui de mieux qu'un philosophe soucieux du corps et de ses mouvements, fou d'escalade, si j'ai bien compris, un double agrégé et d'éducation physique et sportive et de philosophie. Bonjour Pierre Souque, bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous enseignez au lycée Ambroise Brugière à Clermont-Ferrand ainsi qu'à l'université Clermont-Auvergne et vous fréquentez dans vos écrits de nombreux philosophes, Kant, mais aussi Heidegger, Patochka, Nietzsche. Je précise à nos auditeurs que les références des travaux de nos deux invités figurent sur le site de cette émission.
Comme elles sont agréables, ces routes de Provence, tantôt baignées de soleil, tantôt à l'ombre, ces routes que l'on parcourt doucement pour écouter les cigales. Mais pour les découvrir, ces routes, il faut une carte et surtout, il faut savoir la lire. Combien parmi vous, grandes personnes comprises, savent-ils lire une carte routière ?
Bon, alors essayons de voir à peu près où nous sommes. D'abord, il faut orienter la carte. Le soleil est par là-bas, donc le nord est par là. Sur la carte, vous voyez une vallée encaissée, ici, la combe de la Cigalière. Et cette vallée encaissée, vous l'apercevez là-bas, vous voyez qu'elle est assez encaissée. D'ailleurs, cet encaissement sur la carte est très bien rendu par les courbes de niveau et par l'estompage de la carte. Alors ici, sur la carte, vous apercevez à l'endroit où les courbes de niveau se resserrent également, un éperon que vous voyez très bien là-bas. C'est l'éperon qui se trouve là-bas avec les rochers.
Avec une telle carte dans la poche, l'exploration peut commencer. L'exploration d'un pays merveilleux, d'un pays inconnu, il faut bien le dire, un pays inconnu de nous, le nôtre. Avec une carte que l'on sait bien lire, on peut s'évader loin des grandes routes et des villes, aller où l'on veut, en pleine nature, loin des hommes, loin d'un monde que l'on est toujours content de quitter, d'autant plus que grâce à une carte, on est sûr de le retrouver.
Ah bah oui, on est sûr, bien sûr. Tout le monde le sait, c'est une très belle leçon donnée ici sur l'ORTF en 1969. Sauf que, en réalité, ça ne marche pas toujours.
C'est bizarre, on voit plus les marques, là.
Ouais, c'est normal, on a pris une variante.
Un raccourci, quoi.
Tu veux, ouais. En principe, je connais bien cette partie-là, mais... Là, je comprends pas.
Tu
Tu comprends pas?
Rien, rien. Tu vois, normalement, derrière ce rocher, il y a un cours d'eau.
Hé, ici, il n'y a pas de cours d'eau?
Non, non, mais suis-toi à mon instinct, vieux. D'ailleurs, si t'écoutes bien, on l'entend d'ici. Allez.
Ouais. Eh ben, c'est con, j'avais fini par l'entendre. Bon, on est perdu ou on n'est pas perdu?
Perdu, c'est un grand mot. Égaré, quoi. Si tu veux, sur la carte, on est dans cette zone-là. Entre là et là.
Ouais, bon, enfin, une carte, c'est bien, mais quand on sait pas où on est, ça sert pas à grand-chose. Hein.
Alors, quoi, on arrive?
Bon, je leur dis.
Dramatise pas trop. Hein.
Bon, on est complètement paumés, les mecs.
Quoi?
Michel Busseau, une carte, ça ne sert pas à grand-chose quand on ne sait pas où on est. C'est un extrait de ce fameux film très drôle, surtout quand on voit la confiance en eux-mêmes de certains messieurs. Les Randonneurs, réalisé par Philippe Harel en 1997. C'est un grand classique, ça dit quelque chose de profond. Une carte n'est utile que si, d'emblée, on fait le lien entre ce qu'on voit sur la carte et ce qui est autour de soi.
Ça montre en tout cas qu'il n'y a pas de continuité entre l'expérience première que j'ai de moi-même dans l'espace, de la nécessité de m'y tenir. Hein. On se rappelle que exister, ça veut dire se tenir hors de soi-même dans l'espace, hein, existere. La nécessité donc de me tenir dans l'espace qui fait appel à mes sens, à ma corporéité, puisqu'on part toujours de son corps pour essayer de comprendre l'espace qui nous entoure. Et cette expérience première que nous faisons chaque jour, chaque minute de nos journées, que nous ne pouvons pas interrompre, qui fait partie de notre vie, avec laquelle nous devons jouer en quelque sorte pour exister en tant qu'humain, cette expérience, elle n'est pas en continuité avec la lecture d'un artefact extrêmement subtil et sophistiqué, qui est la carte géographique classique, qui est non égocentrée, puisque notre expérience géographique, elle est égocentrée, elle est centrée sur nous, et très vite, nous nous apercevons que l'espace nous déborde, nous excède, est beaucoup plus grand que nous. C'est ça la première réalité que nous rencontrons lorsque nous commençons à nous tenir debout. Bah, il y a de l'espace partout et ça nous excède, ça nous dépasse. Et très vite, on est perdu parce que l'être humain n'est pas un animal très fort pour se repérer dans l'espace. Il est beaucoup moins fort que les oiseaux, beaucoup moins fort que pas mal de poissons, beaucoup moins fort que pas mal de mammifères. Il est obligé d'user de subterfuges pour ça. Et puis la carte, elle n'est pas la carte classique. On pourrait se demander d'ailleurs si le numérique n'est pas en train de changer les choses. La carte classique, elle n'est pas égocentrée. Elle est géocentrée à partir de coordonnées cartésiennes, comme on a l'habitude de le dire, qui vont nous renvoyer à un autre ordre de phénomènes. Et c'est pour ça qu'en général, alors il faut le dire, la plupart du temps, la plupart des gens sont paumés. Il faut une lecture instruite. Et cette instruction de la lecture de la carte, elle a été longtemps réservée à un tout petit corps de spécialistes. D'abord les militaires, les constructeurs, les géomètres, ensuite les géographes, dont c'était un des travaux fondamentaux. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, encore, sont complètement perdus avec une carte.
Et la petite moquerie qui existe à l'égard des gens comme moi, qui sont vraiment nuls, est-ce qu'elle est un peu exagéré? Vous êtes en train de dire que c'est universel, en vérité. C'est normal que nous ayons du mal. Il y a peut-être des gens très doués, mais c'est dans l'autre sens qu'il faut le dire. Il y a des gens plus doués que d'autres pour faire le lien entre une carte et un lieu physique immédiatement.
Il y a surtout des gens qui ont été instruits et qui ont développé les bonnes compétences, en quelque sorte, pour lire les artefacts. Mais à la limite, avant même l'existence de cartes, il y avait sans doute dans les groupes humains de chasseurs-cueilleurs, par exemple, des personnes qui étaient plus instruites que d'autres dans la capacité de poser des repères, puisque l'homme a besoin de poser des repères pour s'orienter. Il ne peut pas s'orienter sans cela. Et il y a un peu d'ironie facile à dire, bah, vous ne savez pas lire une carte, mais à la limite, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens dans une société ordinaire qui seraient spécialistes d'épigraphie grecque, par exemple. Je ne vois pas pourquoi on se moquerait des autres parce qu'ils ne connaisseraient pas l'épigraphie grecque. Ceux qui la connaissent ont été instruits pour ça. Donc il y a une instruction nécessaire, parce que ça ne va pas de soi. Et là, on revient à une idée tout à fait fondamentale, d'ailleurs, de Georges Perec dans « Espèces d'espace », ce livre absolument magnifique et merveilleux, lorsque Perec dit « l'espace est un doute ». Voilà. Perec est le premier à insister sur quelque chose. Cette chose-là est douteuse, c'est équivoque, c'est ça nous inquiète. L'espace n'est pas évident. Nous repérer dans l'espace, faire usage de l'espace, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, qui nous met en permanence en péril, en déséquilibre. Et l'histoire humaine, c'est aussi l'histoire de l'invention d'artefacts, de l'invention de techniques, l'invention de compétences pour essayer de conjurer ce caractère douteux. Mais il faut le reconnaître, on n'y arrive jamais tout à fait.
Vous ne perdez rien pour attendre, Pierre Souk. J'ai beaucoup de choses à vous demander sur les forêts, l'escalade que vous aimez y pratiquer depuis longtemps, les randonneurs que peut-être vous connaissez, vous qui êtes prof d'éducation sportive, et puis ce que les philosophes ont à en dire. Mais puisque vous évoquiez les oiseaux, Michel Lussault, je ne résiste pas d'abord à vous faire entendre un ornithologue, Guy Jarry, en 2000, qui va vous expliquer que vraiment, beaucoup d'espèces d'oiseaux sont infiniment plus douées que nous pour s'orienter, évidemment sans carte.
Les oiseaux sont particulièrement bien équipés pour de multiples raisons. D'abord, ils ont une perception auditive qui est complètement différente de la nôtre. Ils entendent les ultra-aigus et les ultrasons d'une manière quasi parfaite. Ils ont des visions dans des rayonnements que nous ne percevons pas, par exemple ultraviolet. Voilà. Pour l'orientation, on sait au moins que pour quelques oiseaux, ils ont un organe qui leur permet de capter la direction du champ magnétique terrestre. On leur sait aussi une excellente mémoire, donc une mémorisation très parfaite des paysages qu'ils ont déjà survolés. Et puis, pour s'orienter et conserver les bons caps lorsque la visibilité n'est pas nécessairement bonne, c'est le cas en particulier pour les oiseaux qui voyagent à nuit, parce qu'on ne l'a pas encore dit,
oui.
Le voyage peut se faire de jour et de nuit. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs. Il y a certains migrateurs qui ne voyagent que le jour. On peut le comprendre, c'est le cas des cigognes, par exemple, ou de beaucoup d'oiseaux qui pratiquent le vol à voile. Donc le vol à voile, c'est parce que le soleil chauffe l'air et ils ne peuvent voler que quand l'air est chauffé. Donc par conséquent, ils sont limités dans leur capacité de voler, comme les planeurs. Quoi. Et puis il y a ceux qui sont des exclusifs de la migration nocturne. Et donc on sait par expérimentation que ces oiseaux se repèrent sur les étoiles pour conserver le cap précis vers leur destination.
C'était sur France Culture, Guy Jarry, ornithologue, en 2000. Pierre Souk, nous sommes vraiment mal dotés, hein, l'espèce humaine, comme le disait si bien Protagoras dans son mythe raconté dans un dialogue de Platon qui s'appelle justement le Protagoras. Nous sommes vraiment une espèce moins dotée que beaucoup d'espèces animales, par exemple, pour l'orientation.
Alors, si on reprend effectivement le mythe de Prométhée dans le Protagoras, on est mal doté. Hein, on n'a pas d'outils, on n'a pas d'intelligence, et du coup, on ne peut pas s'orienter. Mais quand même, la techné, du coup, dans le mythe de Protagoras, est cet outil supérieur qui va permettre à l'homme, peut-être de ne pas s'orienter naturellement comme un animal, mais de créer des outils et de réfléchir à des façons de s'orienter. Et du coup, naturellement, on est moins doté, ou moins bien doté peut-être que des animaux pour s'orienter, mais on va acquérir quand même une connaissance technique, une intelligence technique qui va nous permettre de mieux s'orienter que... Et le GPS, tout à l'heure, dont on parlait, qu'on a évoqué quelque part, est un outil technologique beaucoup plus puissant que la plupart des capacités qu'un animal pourrait
Donc notre avoir. Faiblesse peut devenir une force.
Oui, absolument. Notre faiblesse peut devenir une force. Mais le problème, et le terme d'existence... Tout à l'heure, avec cette idée d'existérer, de sortie de soi, pose le problème de la représentation en fait chez l'être humain que l'animal peut-être n'a pas. Le pigeon, il ne réfléchit pas au chemin qu'il va prendre lors de sa migration. C'est un instinct naturel, il est programmé, on pourrait dire, peut-être pour le faire. Le problème, c'est que nous, en créant des objets, des artefacts, comme le disait Michel tout à l'heure, créant des objets, on crée un écart avec notre existence, ce qui va nous nécessiter eh bien, un ajustement. Alors la carte, c'était déjà ça, c'est-à-dire qu'on produit une carte qui est une représentation plus ou moins, on va dire, physique du monde, mais il faut l'ajuster. Et ça pose du coup un nouveau problème parce qu'on se décale du monde, on se décale de la réalité, et parce qu'on emploie un outil qui n'est pas un outil peut-être technique comme celui de l'animal, mais qui est un outil rationnel, en fait, et qui demande à notre intelligence de penser le monde, alors que cette pensée est en fait abstraite et qu'elle n'est pas ancrée dans le monde. Elle n'est pas ancrée dans le monde.
Alors, si nous sommes plutôt mal dotés, mais que cette faiblesse peut se retourner en force. Nous pouvons inventer des outils géniaux, comme le GPS. Néanmoins, sur le plan des qualités naturelles, vous qui êtes professeur d'éducation physique, qui emmenez, je pense, des gens en forêt si vous faites de l'escalade elle-même exigeant de sentir les bonnes prises à droite, à gauche, de voir près de soi. C'est exactement le contraire d'une intelligence qui travaille sur une carte. On travaille vraiment dans l'espace proche. Est-ce que vous diriez que nous sommes inégaux en termes d'individus? Il y a vraiment des gens plus ou moins doués pour l'orientation que j'appellerais sensible et immédiate.
Alors, qui est des capacités innées, malheureusement, plus ou moins développées chez certains individus, oui, évidemment. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse dire que l'orientation soit une capacité innée. Elle relève certainement d'un apprentissage. Après, cette orientation, elle peut relever de l'intuition, elle peut relever du sentiment. Et entre deux personnes, deux sportifs de haut niveau ou deux grimpeurs qui auraient les mêmes capacités physiques, celui qui sera meilleur, c'est celui qui aura une intuition d'orientation peut-être plus développée que l'autre. Et ce n'est pas quelque chose de rationnel, ce n'est pas quelque chose qui relève de la capacité objective, c'est quelque chose qui relève peut-être d'un autre ordre. Alors, on parle de capacité de lecture de la voix, ce type de choses, mais c'est peut-être beaucoup plus profond parce que ça relève de l'intuition, de quelque chose qui est en fait profondément sensible. Pourquoi prendre telle ou telle voix? On ne peut pas le rationaliser parfois. Mmh. Et il se trouve que pour certains individus, c'est la bonne voie. Alors, évidemment, on peut invoquer la chance. Peut-être que le hasard est la solution, mais peut-être
la confiance en soi.
La confiance en soi.
Enfin,
aussi.
En même temps,
oui.
Les randonneurs dans le film, ceux qui ont confiance en eux-mêmes, ils sont vraiment ridiculisés.
Oui. La confiance en soi, il y a peut-être quelque chose aussi qui relève vraiment de l'existence, dans le sens où, au-delà du dépassement de soi, il y a une quête d'absolu, il y a une quête, pas de performance, mais une quête d'aller plus loin et de trouver la bonne voie, parce que ça nourrit son existence. Mmh. Et que peut-être, en définitive, c'est ça le sens même de la vie, de toujours avancer, de trouver son chemin, d'aller quelque part. Jusqu'à la fin.
Alors, vous parlez de nos outils géniaux, comme les GPS. Michel Lussault, est-ce que vous avez déjà remarqué, je me fais souvent cette réflexion, que c'est tellement génial qu'il y a des gens qui ne savent juste pas du tout où ils sont. Ils ne connaissent plus leur quartier. Il y a même de jeunes chauffeurs de taxi qui savent pas, s'ils n'ont pas le GPS, ils n'ont pas le sens exactement de l'endroit où ils sont, alors qu'on avait d'anciennes générations de chauffeurs de taxi connaissaient tout Paris, toutes les rues. Le GPS, c'est aussi une paresse, ou peut-être une facilité qui presque éthiquement, du coup, je trouve est problématique, parce que c'est important le quotidien, c'est important de savoir là, il y a une boulangerie, là, il y a un bar, je me rappelle, il y a une rue qui part par là. Enfin, je sais pas, ça fait partie de nos vies d'humains, de nos sens des autres.
Oui, il y a un peu un oubli de ce que l'on pourrait appeler la géographicité de l'existence, en rabattant finalement l'orientation sur le soi, puisque le GPS nous ramène à nous-mêmes. Oui. Nous sommes un point bleu qui se déplace sur une surface dont nous n'avons rien à savoir. Et ça renvoie véritablement au constat de base de Colin Ellard dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire, nous avons développé des artefacts de plus en plus incroyables. Et vous le disiez, aucun animal ne peut avoir l'équivalent du GPS. C'est vraiment absolument incroyable technologiquement. Mais ce faisant, nous sommes capables d'aller sur Mars, mais nous ne sommes pas capables de nous repérer à 500 mètres de chez nous si nous ne l'avons pas découvert auparavant. Et on renvoie là à quelque chose qui est assez bouleversant lorsqu'on essaye de penser l'expérience émotionnelle, sensible et cognitive que nous avons de l'espace. En fait, l'être humain, et Colin Ellard le montre bien, l'être humain est nul, en particulier, pour véritablement maîtriser les surfaces. Très vite, dès qu'on s'éloigne d'un point de repère, on devient perdu. On se perd très rapidement. C'est ce que montre le film Les Randonneurs. En fait, on est paumé très vite, parce que nous ne sommes pas très bien équipés pour les surfaces. Or, la surface, il y en a partout autour de nous. Il y a des animaux qui savent très bien se repérer dans les surfaces. En revanche, là où l'être humain a un avantage comparatif énorme, c'est que très tôt, il est capable de poser les repères et de relier les repères entre eux pour non pas appréhender les surfaces, mais pour appréhender un parcours. L'être humain, c'est un être de parcours. Il sait s'orienter à partir de lui-même en posant des points qu'il va combiner entre eux pour imaginez le parcours, imaginez le parcours qu'il va faire. Et les premières représentations de l'espace sont toujours liées à des représentations de parcours.
Et les oiseaux migrateurs, par exemple, qui quand même
font la même
quelque chose d'extraordinaire, hein, chaque fois qu'il y a des films là-dessus. Ouais. Enfin, moi, je suis saisie, je pense que je suis pas la seule. Ils n'ont pas ce sens du parcours. On a l'impression qu'ils l'ont précisément.
Ils l'ont, mais ils ont aussi un sens de l'étendue qui est beaucoup plus fort. C'est très difficile pour un être humain de mesurer la distance parcourue s'il n'a pas d'outils pour cela, s'il n'a que sa sensation. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai marché 1 kilomètre, 2 kilomètres, ça dépend de la pente, ça dépend de mes conditions. Évidemment, on peut se repérer par rapport au temps, on a des régularités, des habitudes, mais très vite on est perdu. Prenons une expérience élémentaire. Vous êtes marin, vous prenez un bateau au bord de la mer, vous sortez de votre port, vous voguez 500 mètres vers le large. Vous vous retournez, vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous êtes. L'immensité marine vous entoure, vous êtes littéralement perdu. La seule solution que vous avez, c'est de poser ce qu'on appelle des amers, c'est de poser des balises, c'est d'être capable de vous aligner sur des balises, et là vous vous dites, tiens, je sais où je suis. Et ça, c'est l'énorme avantage comparatif de l'espèce. Et à partir de cela, les êtres humains ont créé ce que j'appellerais des cultures spatiales, des cultures
et
géographiques.
Et de la mémoire, parce qu'on parle de la mémoire des boulangeries et des bars. Enfin, c'est une mémoire.
Et avec le GPS, évidemment, on n'a plus tout ça. Donc en fait, moi qui suis professeur de géographie, j'incite tous mes collègues dans les lycées, dans les collèges, quand je les rencontre, à maintenir un apprentissage géocentré de l'espace et pas simplement un apprentissage égocentré. C'est-à-dire, il faut se donner l'habitude de sortir de soi pour comprendre comment on établit des systèmes de repérage et de représentation d'un espace qui nous dépasse, qui nous excède, afin de pouvoir avoir une maîtrise pleine et entière de notre connaissance spatiale, de notre cognition spatiale, et ainsi on pourrait à la fois se repérer sur la Lune et ne pas se perdre dans un parc.
C'est presque un programme de philosophie du sport. Vous qui êtes Pierre Souk, prof agrégé de philo et prof agrégé de PS, la philosophie du sport, c'est la mémoire aussi des gestes, oui. Savoir les répéter, oui. Et savoir... Alors évidemment, dans des sports comme l'escalade, c'est encore plus vrai, mais après tout, il y a de la technique corporelle dans tous les sports et elle engage le sens de sa droite, de sa gauche, de comment, qu'est-ce qui se passe quand je regarde vers là, quand je regarde ailleurs, quand je mets ma main, mon coup droit, mon revers, enfin, c'est ça.
Oui, oui, après, et c'est finalement le parti qu'on a pris de nous distinguer ou de nous séparer des animaux, d'une certaine façon. Ce qui fait peut-être notre particularité, au-delà des animaux, c'est-à-dire qu'entre deux pigeons, leur façon de s'orienter sera quasiment la même. Entre deux êtres humains, les façons vont différer. Peut-être parce que nous avons la capacité de donner des significations aux artefacts, aux objets des choses, et que du coup, le problème de cette désorientation liée aux cartes, liée à ces outils physiques, aux GPS qui ont été créés, n'est pas tant que l'on n'arrive pas à les comprendre, mais plutôt peut-être, à certains moments, ça ne fait pas sens. Et peut-être que pour s'orienter, effectivement, si on prend un exemple bête, plutôt que de suivre un GPS et quand quelqu'un nous demande, il est désorienté, il nous demande où aller, on va donner des critères, la boulangerie, le sushi shop, l'Intermarché. Et le problème, c'est que même en faisant ça, ça ne marche pas tout le temps. Pourtant, ça va de soi pour celui qui aime telle ou telle chose. Pourquoi ? Tout simplement parce que la même boulangerie n'a pas la même signification pour deux individus. Et du coup, il y a peut-être cette capacité d'orientation, et qui est valable dans le sport en général, dans cette possibilité de donner des significations à autre chose qui ne sont pas forcément objectivement signifiantes pour tout le monde, en définitive. Il y a donc quelque chose peut-être de phénoménologique là-dedans, dans notre orientation, ce qui nous permet d'une certaine façon d'aller au-delà d'un GPS, d'aller au-delà d'une carte, mais en même temps d'être désorienté si l'on n'a pas les bons critères.
Vous avez évoqué Georges Perec, Michel Lussault, qui dans ce livre impressionnant « Espèces d'espace » de 1974, publié chez Galilée, pose le problème des limites par nos yeux, notamment par notre corps, de l'espace auquel nous avons spontanément affaire. Et c'est de là, semble-t-il, que partent tous les problèmes. Écoutez cet extrait du texte de Perec.
Nous nous servons de nos yeux pour voir. Notre champ visuel nous dévoile un espace limité, quelque chose de vaguement rond, qui s'arrête très vite à gauche et à droite, et qui ne descend ni ne monte bien haut. En louchant, nous arrivons à voir le bout de notre nez. En levant les yeux, nous voyons qu'il y a un haut. En baissant les yeux, nous voyons qu'il y a un bas. En tournant la tête dans un sens, puis dans un autre, nous n'arrivons même pas à voir complètement tout ce qu'il y a autour de nous. Il faut faire pivoter le corps pour tout à fait voir ce qu'il y avait derrière. Notre regard parcourt l'espace et nous donne l'illusion du relief et de la distance. C'est ainsi que nous construisons l'espace, avec un haut et un bas, une gauche et une droite, un devant et un derrière, un près et un loin. Lorsque rien n'arrête notre regard porte très loin. Mais s'il ne rencontre rien, il ne voit rien. il ne voit que ce qu'il rencontre. L'espace, c'est ce qui arrête le regard, ce sur quoi la vue bute. L'obstacle. Des briques, un angle, un point de fuite. L'espace, c'est quand ça fait un angle, quand ça s'arrête, quand il faut tourner pour que ça reparte. Ça n'a rien d'ectoplasmique, l'espace. Ça a des bords, ça ne part pas dans tous les sens. Ça fait tout ce qu'il faut faire pour que les rails de chemin de fer se rencontrent bien avant l'infini.
Georges Perec, lu par Michel... Pardon, par Nicolas, j'allais dire Michel Berger. Nicolas Berger, notre réalisateur. Michel Dussault, pourquoi vous aimez ce texte ?
Je crois que Espèce d'espace est le plus grand livre jamais écrit sur l'espace, et c'est un livre indépassable, même si on peut aujourd'hui le compléter. D'abord parce que Perec, avec sa méthode bien à lui, hein, systématique de volonté d'aller jusqu'au bout d'une question, qui est très philosophique dans une certaine mesure, Perec rappelle une chose qu'on a tendance à oublier. L'espace, c'est d'abord une matérialité. L'espace, c'est quelque chose. Ça n'est pas rien, c'est quelque chose. J'allais dire que pour Perec, c'est de l'ordre du matériel concret, une sorte d'hyper-concrétude de tous les instants. C'est de l'ordinaire du concret. On pourrait même dire de l'infra-ordinaire, tant nous sommes amenés à ne plus y penser. Or, c'est toujours là. On s'y cogne, on s'y bute. Et pour faire face à tes espaces, nous avons besoin à la fois de développer une corporéité, devant, derrière, au-dessus, dessous, quelque chose qui nous permet d'être un corps qui se tient dans l'espace, une sensorialité. Comment sommes-nous sensibles à des événements spatiaux ou à d'autres, mais aussi des types de connaissances, une cognition qui va nous permettre de nous d'appréhender cet espace, d'en faire quelque chose. Et finalement, dans Espèce d'espace, comme dans un autre projet qui s'appelle Lieu, Perec va essayer systématiquement de tenir ensemble cette corporéité, cette sensorialité et ces capacités cognitives.
Et les angles. Parce que
et les angles, bien sûr.
Les
et
vagues sur la mer, c'est terrible. Elles bougent. Là, on est tout de suite perdu. Il n'y a pas d'angle fixe.
D'où ce que l'on disait tout à l'heure. L'espace est un doute parce que l'espace, finalement, nous assaille de sollicitations contradictoires et nous ne savons pas toujours quoi en faire. Et c'est un apprentissage très long sur lequel nous ne finissons pas de revenir parce que, en plus, nous changeons nos rapports à l'espace. À mesure que nous changeons d'âge, ça n'est pas la même chose pour les hommes et les femmes, pour les jeunes et les vieux, c'est différent selon les cultures. Et ça arrive à un tel point chez Perec qu'il a cette formule absolument extraordinaire au début d'Espèce d'espace, quand il dit « vivre », c'est passer d'un espace à un autre en essayant de ne pas trop se cogner. Il y a quelque chose de très puissant dans cette affirmation. Une existence spatiale, ça consiste à essayer de se frayer un chemin entre toutes les espèces d'espace avec lesquelles nous avons à voir, en essayant de ne pas trop se frotter, de se cogner, et pour autant, nous savons que chaque jour, ça cogne. Et puis, il y a chez Perec quelque chose qui est toujours là, même si c'est parfois un peu contenu par le style, c'est que, et vous l'évoquiez tout à l'heure, en parlant des boulangeries qui n'avaient pas le même sens pour deux personnes, selon la qualité des croissants qu'on y trouve, selon aussi les mémoires qu'on en a faites, mais c'est que nous avons aussi une expérience émotionnelle de l'espace. L'espace nous émeut, l'espace nous meut et nous émeut. Et cette dimension émotionnelle, on a souvent tendance à la mettre de côté alors qu'elle est aussi constitutive de notre existence.
Vous parliez tout à l'heure, Pierre Souk, de la phénoménologie qui a réfléchi à cela. Donc c'est un courant philosophique du début du XXe siècle, fondé par Edmund Husserl, allemand. Et c'est vrai que Husserl, il y a comme un écho avec ce que dira plus tard Perec, rappelle qu'on part toujours de soi et de son corps et de son champ visuel, comme dit Perec dans le texte qu'on vient d'entendre, et que ça produit même des paradoxes. Nous savons bien que la Terre tourne autour du Soleil et nous l'inverse. Oui. Et non l'inverse, pardon. Mais de notre point de vue, quand nous regardons le Soleil ou quand nous regardons d'autres espaces terrestres ou non terrestres, nous pensons par rapport à nous. Et donc il a, dans un texte qui n'est pas extrêmement connu, mais qui est très intéressant, que vous nous avez signalé, L'Arche originaire Terre ne se meut pas, texte de 1934, où Searle dit, en fait, oui, Galilée a raison, mais nous pouvons dire, pour nous, c'est pas vrai. Pour nous, c'est le soleil qui tourne autour de nous, puisque c'est à partir de nous que nous le regardons.
Oui. Alors, c'est ce que dit Perec d'une certaine façon, puisqu'il dit il faut distinguer la vision et le regard. Si la vision est cette capacité que nous avons de percevoir l'espace, finalement, on ne voit rien. On ne voit rien à partir de la vision. On voit grâce au regard, et le regard, ça va être la capacité qu'a l'individu de donner sens à des phénomènes. Et du coup, lorsque Husserl reprend finalement la thèse de l'héliocentrisme en disant, bon, très bien, d'un point de vue physique, la Terre tourne autour du Soleil et ce n'est pas l'inverse, etc. Il dit, mais ça n'a aucune importance, en fait. Parce que ce qui m'importe, moi, dans mon existence, le matin, quand je me lève, c'est que je vois le Soleil à l'horizon qui va, eh bien, circuler dans cet espace que je crois absolu autour de moi. Et j'ai donc l'impression, le sentiment, qu'en fait, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre et non pas l'inverse. Donc, il ne remet pas en question l'idée selon laquelle il existerait un espace physique avec une astronomie, avec un référentiel héliocentrique, en tout cas pour parler du système solaire. Non, il dit, mais simplement, ramener ça à l'expérience naturelle, au monde naturel, les Bonswelt, hein, c'est ce qu'il dit. Ce qui fait sens pour moi, ce n'est pas que le Soleil soit fixe, c'est plutôt que la Terre soit fixe, ou que j'ai l'impression que la Terre soit fixe et que le Soleil, en fait, tourne autour.
Oui, donc il y a comme un clivage impossible à dépasser entre ce que l'on sait abstraitement et concrètement notre rapport à l'espace où ça part de nous, quoi.
Alors, il y a un clivage, mais il est dépassable, dans le sens où on est capable rationnellement de savoir que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil.
Oui.
Et il est aussi dépassable dans le sens où notre expérience naturelle peut nous induire en erreur. Puisque si je
nos erreurs, du coup, sont quand même très importantes.
Oui,
elles nous rendent très modestes.
Oui, elles nous rendent très modestes. Mais la raison, effectivement, sera un outil permettant de remédier à une désorientation que notre monde naturel peut créer, puisqu'on a l'impression que la Terre est plate. Or, les navigateurs, typiquement, s'ils naviguent en pensant que la Terre est plate, ça risque de les désorienter.
Alors, merci de me faire une transition toute trouvée. De temps en temps, rien ne marche. On n'a plus du tout de sens intuitif de l'orientation. Et là, il faut faire appel à des règles quasi abstraites. Et Descartes, dès le XVIIe siècle, nous en a donné un exemple. Alors, son objectif, c'était dans le texte que vous allez entendre du discours de la méthode de 1637, de travailler l'idée de la résolution morale. Nous avons fait une série ici sur la notion de résolution en janvier. C'était un bon moment, les bonnes résolutions de janvier. Il faisait une analogie. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'analogie elle-même. Il faisait une analogie avec ce qui se passe en forêt, comme pour les randonneurs. Quand on est perdu, il faut prendre une résolution, en quelque sorte abstraite, appliquer une règle qui peut ne pas du tout être intuitive, mais qui est la seule qu'il nous reste. Écoutez-le.
Ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m'y serais une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Imitant ceci, les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté, et ne le changer point pour de faibles raisons, encore que ce n'ait peut-être été au commencement que le hasard seul qui les ait déterminés à le choisir. Car par ce moyen, s'ils ne vont justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Appliquer la règle d'aller toujours tout droit, même si on a des intuitions qu'il faudrait emprunter des petits chemins autour, non, si rien ne marche, comme pour les pauvres randonneurs du film, il faut appliquer cette règle, même si elle peut avoir quelque chose d'absurde à un moment donné, mais au moins on sait que si on l'applique, on va sortir de la forêt. Je vous laisse commenter, Pierre Souk.
Alors, on a envie de se focaliser sur une sorte d'opinion commune liée à la pensée de Descartes, consiste à se dire que finalement, Descartes, alors dans la création de ses repères cartésiens, en tout cas propose une géométrie objective permettant eh bien, là, d'appliquer des principes logiques à une réalité. Et du coup, d'une façon indéniable, si l'on est perdu en forêt, c'est une surface plane, il suffit de suivre une ligne droite pour en sortir. Mmh. Sauf que ce qui détermine cette situation, c'est que le voyageur est désorienté et perdu en forêt. En d'autres termes, quelque part, c'est une nécessité vitale de s'en sortir. Et donc, c'est pas tant la production, finalement, de représentations théoriques et géométriques qui détermine l'utilisation de principes logiques, que le fait d'être angoissé, que le fait d'être désorienté, que le fait finalement d'avoir peur, et le doute cartésien est plein d'angoisse, hein, douter c'est être angoissé quelque part, ce qui va permettre à l'être humain d'aller trouver des outils certes rationnels pour sortir de la forêt. Mmh. Mais au départ, la forêt est angoissante. La forêt fait peur, surtout au XVIIe siècle. Il y a un imaginaire de la forêt, il y a un très bon livre d'Harrison qui montre que la forêt, c'est la forêt des brigands, c'est la forêt, même dans l'épopée de Gilgamesh, c'est la forêt qui fait mal. Et puis, il y a toute une étude de la forêt qui était le lieu des fous, des brigands, des aliénés aussi, même chez Foucault, etc. Donc, il y a cette idée que la forêt est un espace désorientant parce que il fait peur, en définitive. Ou les contes de Grimm, on pourrait même dire, dans les contes pour enfants, la forêt est toujours désagréable. Du coup, chez Descartes, si les principes logiques permettent de trouver une solution indéniable à un problème, cette solution n'a de sens que parce que on a besoin de survivre en définitive. Et c'est bien là le sens de la morale. Alors, c'est pas très beau, morale provisoire, morale par provision, bon, on pourrait le reformuler de plein de façons, mais c'est l'idée selon laquelle, au fond, ce qui prime, c'est pas tant la science, c'est pas tant le fait de savoir s'orienter, c'est le fait de survivre, c'est le fait de survivre.
Et donc, Michel Lussault, de temps en temps, il faut faire taire toutes ses intuitions et écouter le GPS, l'application Waze. Et je présume que vous connaissez ces réactions souvent de gens assez doués en orientation qui disent « Mais c'est n'importe quoi ce que me fait faire l'application. C'est pas par là qu'il faudrait passer, etc. » Mais si on est vraiment perdu, on fait taire ses intuitions. Et aussi absurde que cela puisse nous paraître parfois, on se dit, bah oui, l'application, elle a des infos que je n'ai pas. De toute façon, je n'y arrive pas. Je dois lâcher mes intuitions et me fier à une règle externe qui peut même avoir quelque chose d'artificiel, d'agaçant. Mais au moins, je m'en sortirai.
À la fois le texte de Descartes, son commentaire et puis votre question renvoient aussi à quelque chose sur lequel il faut insister. C'est même dans un monde comme le nôtre, aussi couvert, aussi peuplé, aussi connu, se perdre reste une expérience traumatique. C'est-à-dire nous renvoie à cette grande angoisse originelle qui est celui de la perte dans l'espace. Parce que en fait, se perdre, c'est une expérience qui nous confronte immédiatement au risque de perdre la vie. Se perdre, c'est une expérience élémentaire qui nous confronte au danger de perdre la vie et qui nous confronte à notre fragilité, à notre vulnérabilité. Et il y a encore cette angoisse de la perte dans un monde qui est surcadrillé, surencadré. Il faut très peu de temps pour se perdre, ce que montre très bien le film Les Randonneurs. Mmh. On peut se perdre, et ce que montre Colin Ellard, absolument partout, et en quelques secondes, engager la viabilité de son existence, par exemple, sur un chemin de montagne, y compris dans des montagnes très peu élevées. Il suffit de se perdre pour se retrouver confronté à des situations
mais
très difficiles.
Mais aller tout droit, comme dit Descartes, alors, ça marche pour la forêt, mais ça marche pas pour la mer.
Montagne, bien sûr, ça ne marche ni pour la mer, ni pour la montagne, ni pour la plupart, d'ailleurs, des situations. Oui. Il faut bien le dire, tout le respect qu'on doit à Descartes. Oui. On peut penser que ce texte-là n'est pas son plus fameux. En tout cas, il est clair que ça ne marche pas et que très vite, on se retrouve abusé par ses sens. Comme dans le film Les Randonneurs, en fait, très vite, l'être humain tourne en rond. Donc la seule chose que Descartes dit et qui est juste, c'est qu'il faut essayer de briser ce cercle, parce que on ne sait plus où on est. Donc que font les individus avant d'avoir Descartes, avant d'avoir des possibilités rationnelles de s'orienter? Bien, en général, encore une fois, j'y reviens, ils prennent des points de repère. Ils essaient d'assurer un cap à partir d'un point de repère. Une crête de montagne. Tiens, de l'autre côté, il y aura peut-être quelque chose. Et finalement, le tout droit de Descartes, c'est un petit peu la même chose. Plus que le tout droit, je retiendrai l'idée, il faut tenir un cap. Parce que c'est la seule solution pour que nous sortions de ce cercle dans lequel nous sommes enfermés, qui est celui de la perte d'orientation.
Alors, un bon siècle après, Emmanuel Kant, donc à la fin du XVIIIe siècle, est probablement un des seuls philosophes à utiliser vraiment le mot d'orientation dans « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» Alors, évidemment, c'est dans la pensée, hein, c'est pas dans la forêt, mais indéniablement, il y a là aussi une analogie plus ou moins latente. Et pour le coup, ça sonne un peu différemment de Descartes, c'est pas l'idée de la règle comme extérieure à nos intuitions sensibles, une règle à laquelle se tenir, aller tout droit. Kant parle de sentiment permanent, essayer de retrouver un sentiment de là où on est. Je vous propose d'écouter ce texte d'Emmanuel Kant, de 1786.
S'orienter signifie, dans le sens propre du mot, d'une région donnée du monde, nous divisons l'horizon en quatre de ces régions, trouver les trois autres, surtout l'Orient. Si donc je vois le soleil au ciel et que je sache qu'il est midi, je puis trouver le sud, l'ouest, le nord et l'est. Mais j'ai besoin à cet effet de sentir une différence dans mon propre sujet, celle de la main droite et de la main gauche. J'appelle cela un sentiment, parce que ces deux côtés ne montrent extérieurement dans l'intuition aucune différence remarquable. Je ne m'oriente donc géographiquement, avec toutes les données objectives du ciel, qu'à l'aide encore d'une raison subjective de distinction. Et si, un jour, par miracle, tous les astres conservant du reste leur forme et leur situation respective ne présentaient d'autres changements sinon que leur direction, d'orientale qu'elle était, serait devenue occidentale, aucun œil humain ne remarquerait la nuit suivante, à la clarté des étoiles, le moindre changement. Et l'astronome lui-même, s'il ne faisait attention qu'à ce qu'il verrait, et pas aussi à ce qu'il sentirait, serait infailliblement désorienté. Mais la faculté de distinguer que lui a donné la nature et qui lui est devenue habituelle par un plus fréquent exercice vient à son aide, grâce au sentiment de la droite et de la gauche. Et pourvu seulement qu'il jette les yeux sur l'étoile polaire, non seulement il remarquera le changement survenu, mais il pourra s'orienter malgré ce changement.
L'orientation est affaire de sentiments, c'est le mot d'Emmanuel Kant dans ce texte, Pierre Souk.
Oui, alors c'est un texte compliqué, puisqu'il s'insère dans la querelle dite du panthéisme au XVIIIe siècle en Allemagne, avec des Lessing, des Jacobi, et la question première en fait de ce texte est de savoir si Dieu existe ou pas. En fait. Et on retrouve dans le terme d'Orient finalement l'idée de Dieu, puisque l'Orient c'est le Levant, mais c'est évidemment le soleil chrétien aussi, le prêtre qui s'oriente ad orientem, vers l'Orient. Donc la question de fond, elle est celle-ci, de savoir si on peut démontrer l'existence de Dieu par la raison, c'est ce que Lessing propose, ou par simplement le cœur, ce que Jacobi propose aussi. Et il y a ce Mendelssohn qui est entre les deux, qui meurt malheureusement de façon prématurée, et Kant reprend à Mendelssohn le terme d'orienter, en fait. C'est le s'orienter qui l'intéresse. Alors, au-delà de ça, Kant, pour essayer de trouver une boussole dans la raison, afin de savoir si oui ou non on peut affirmer si Dieu existe ou pas, il va s'appuyer sur une analogie qui est évidemment ici l'analogie géographique. Alors, on en parlait en aparté, c'est vrai que Kant a mauvaise presse, on le voit comme ce philosophe des trois critiques, alors qu'il était géographe, enfin en tout cas que...
Il était géographe, bien sûr.
Ah oui, il était géographe, en tout cas il a proposé une cinquantaine de séminaires de géographie à ses étudiants, presque autant que de métaphysique. Alors, il n'est pas géographe au sens académique, puisque je crois, et là... Je parle sous ton autorité, que la première charte de géographie, je crois, Ritter, c'est 1820, quelque chose comme ça. Donc, qui, si
Michel Kant... Michel Lussault approuve.
Oui, bon, ça, je ne dis pas de bêtises. Donc, il n'y a pas de chaire de géographie. Donc, il n'a pas l'étiquette institutionnelle, mais il est géographe. Il écrit sur la géographie. Ses cours ont d'ailleurs donné lieu à un ouvrage vers 1805 de géographie physique. Et il est, j'ai envie de dire, et là aussi je parle sous votre autorité, finalement, un des précurseurs de ce qu'on appellerait la géographicité, ou la chorologie, ou la géographie régionale. Et d'ailleurs, dans le texte, il ne parle pas de points cardinaux, il parle de région. Il y a un des débuts d'une région donnée du monde. En d'autres termes, il y a un flou d'orientation initiale lié à notre nature. On ne peut pas s'orienter selon les points cardinaux. Cette mathématique de la géographie n'est pas applicable pour l'existence humaine. On est donc dans une sorte de régionalisme chez Kant. Et ce qui va être déterminant, c'est pas tant la reconnaissance des points cardinaux que le sentiment que l'on a de s'orienter. Et le sentiment, puisqu'il faut bien donner une définition, chez Kant, ça va être la réceptivité que l'être humain a à ses représentations. Qu'il y ait la droite et la gauche lorsqu'on est perdu en forêt, très bien. Mais ce qui va compter, c'est le sentiment que l'on a de la droite et de la gauche et de ce que l'on peut en faire. Et des fois, étonnamment, on n'arrive d'ailleurs pas à le rationaliser, on a l'intuition, le sentiment qu'il vaut mieux aller à droite qu'à gauche, sans savoir vraiment pourquoi. Et c'est ça, en fait, qui fait le fond de l'orientation chez Kant. L'idée d'un sentiment existentiel.
Un sentiment. Il revient à une sorte d'intériorité subjective.
Oui, c'est ça. C'est ça. Qui d'ailleurs suit son parcours géographique, puisque autant le premier Kant est newtonien, et il considère qu'il existe un espace physique extérieur véritable, et puis finalement, dans la critique de la raison pure, l'espace devient une condition, une forme a priori de la sensibilité, en d'autres termes, quelque chose qui n'est plus absolu, quelque chose qui relève de la sensibilité
humaine. Il ne faudrait pas l'opposer trop vite à Descartes, puisque la pertinence de la règle d'aller tout droit doit aussi s'éprouver comme une vérité intérieure, subjective, très forte.
Oui.
C'est ça aussi, l'évidence du cogito, c'est qu'on sent intérieurement l'évidence de la règle. Mais c'est quand ce mot de sentiment ouvre sur plein d'autres choses, et notamment ce que vous évoquiez, Michel Lussault, là, les aspects émotionnels de notre rapport au monde, à l'orientation du quotidien. Je voudrais qu'on en parle un petit peu.
Oui, bien sûr. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur le rôle de la géographie dans la constitution de la philosophie kantienne, parce qu'effectivement, Kant a enseigné la géographie pendant très longtemps, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, notamment dans le rapport que ça a introduit chez lui à la pensée descriptive, hein, la capacité de décrire, et on y retrouverait beaucoup de choses qu'on voit dans ce texte. Mais évidemment, il n'y a pas d'expérience de l'espace qui ne soit pas émotionnelle. Finalement, nous sommes toujours ramenés à cela, hein, cette condition première de l'existence, qui est l'émotion que nous avons à être immergés dans un espace qui nous dépasse et à devoir, encore une fois, trouver des moyens de conjurer, en quelque sorte, cette épreuve. L'être humain, ainsi, n'est pas un très bon topographe, hein, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, il n'est pas tout à fait capable d'appréhender les espaces continus. L'être humain, en revanche, est un incroyable topologue ou topologiste. Mmh. Il est capable de poser des points, d'aller vers ces points, parfois avec de l'intuition, ensuite en les confortant par l'expérience. Et finalement, toute cette expérience spatiale de l'être humain, on peut même dire qu'elle se cumule historiquement, génération après génération. On a des transmissions de savoirs spatiaux qui sont faites par les parents, les grands-parents, les pères, les écoles, les groupes d'amis, les pratiques que nous faisons, finalement une pratique collective de randonnée, même lorsqu'on se perd, comme dans le film, c'est quelque chose qui nous permet d'engranger une expérience et éventuellement de la transmettre. Et je crois qu'un des problèmes de la vie contemporaine, c'est qu'on a en quelque sorte développé cette couche superficielle d'artefacts, le GPS en fait partie, mais la carte en était un aussi à sa manière, mais ne concernait qu'une petite élite de lettrés capables de lire les cartes, alors que le GPS, aujourd'hui, tout le monde en a un sur son smartphone. Eh bien, ça crée une sorte de couche qui nous sépare de cette expérience émotionnelle. Et moi, je prône à ce que nous revenions à l'expérience brute de la désorientation. C'est-à-dire, nous réapproprier le fait d'être perdu dans l'espace et recomposer à partir de là une pleine conscience de ce que cela suppose de se tenir dans le monde en tant qu'être géographique, de confronter notre expérience à cette géographicité que nous ne pouvons pas suspendre et puis peut-être retrouver les moyens, finalement, d'être un tout petit peu plus efficace.
Modestie
dans nos rapports aux géographies
dont nous parlions, qui est en fait très féconde. Alors, il y a d'autres enjeux à propos des émotions dans l'orientation et la désorientation. On va aller un petit peu en arrière, cette fois-ci, historiquement. Il y a un texte magnifique de Pétrarque. C'est une lettre du 26 avril, 1336. Pétrarque est un Italien, chrétien. Il a sur lui les confessions de saint Augustin, comme on dit quand on est chrétien, Augustin, comme nous disons aujourd'hui en philosophie. Et il fait l'ascension du mont Ventoux à pied. Il parle beaucoup de sa fatigue, de un peu de sa désorientation, mais il retrouve des repères. Et puis, il parle d'un sentiment extraordinaire de s'élever. La vie, écrit-il, que nous appelons bienheureuse, est située dans un lieu élevé, et le chemin qui nous y conduit est étroit, comme on dit. Autrement dit, il a une émotion, le sens d'une grandeur, du monde, peut-être de lui-même aussi, et de Dieu qui permet ce genre d'expérience d'ascension d'une montagne. Le problème, c'est que Augustin affectionne les thèmes comme la misère de l'homme, les turpitudes. Et donc, ce qui est génial dans cette lettre, c'est qu'il est très embêté. Ce qu'il éprouve n'est pas très augustinien. J'aimerais que vous nous en disiez un mot pour faire finir cette émission, Pierre.
En tout cas, dans sa lettre, en tout cas, il semble qu'il veuille franchir le Mont Ventoux de façon un peu adolescente, comme une performance, puisqu'il n'aurait jamais été gravi avant lui. D'ailleurs, il accompagnait de son petit frère, etc. Mais c'est effectivement au-delà de l'aspect sinueux de cette ascension, puisqu'il erre, et puis surtout son petit frère est bien meilleur que lui, puisqu'il va lui tout droit. Il arrive enfin en haut, et on peut l'imaginer, et là, en fait, il, d'une certaine façon, voit cette immensité est devant lui, qui lui rappelle, en tout cas, qu'il retrouve dans le livre 10 de Saint-Augustin qu'il aurait lu à ce moment-là, mais qui lui rappelle finalement la misère de l'homme. Vous parliez de Pascal, à savoir que, mais pourquoi monter dans cette montagne et finalement, si ce n'est pour voir notre petitesse, que nous sommes petits, et peut-être même que j'aurais dû rester en bas et plutôt m'attacher à des choses plus spirituelles, plus importantes, plus intéressantes peut-être que cette ascension en définitive. Du coup, il y a une véritable conversion en définitive dans l'ascension.
Bah, il s'en sort en disant, mais bon, d'accord, mon sentiment n'est pas très augustinien, j'ai un sentiment de grandeur là, mais au fond, c'est la grandeur de Dieu, c'est pas la mienne.
Oui, c'est ça. Et du coup, moi, ça m'évoque, alors ça, c'est beatnik, hein, mais dans les Clochards Célestes, Conquérois, qui dit, une fois que tu arrives, enfin, il cite un axiome zen, mais il dit, une fois que tu arrives en haut de la montagne, tu dois continuer d'avancer. Ouais. Hein, c'est cette idée, en définitive, que ce n'est pas l'espace physique qui nous oriente, mais plutôt, finalement, un espace spirituel, et qu'au fond, chacun d'entre nous, c'est, encore une fois, le sens de la vie qui nous oriente ou qui nous désoriente. En tout cas, c'est ce sens que l'on cherche au-delà des montagnes.
C'est quand même bien différent, au bout du compte, de la vision des montagnes et de la verticalité chez Nietzsche. Alors là, on saute encore plein de siècles, qui, dans Zarathoustra, parle beaucoup des montagnes et qui nous apprennent non pas que nous sommes peu de choses par rapport à la grandeur de la nature et de Dieu, mais que nous avons tous un chemin singulier à trouver, si possible vertical, car le chemin, écrit Nietzsche, le chemin n'existe pas, ainsi parlait Zarathoustra.
Oui, la montagne nous rappelle à la pesanteur, hein, la pesanteur qui est aussi la lourdeur ou la gravité en définitive. C'est-à-dire que Nietzsche, le Zarathoustra, alors c'est une allégorie, mais cette idée de montagne nous rappelle qu'en fait la vie est lourde et qu'il faut un peu comme Sisyphe remonter cette pierre le long de la montagne qui considère notre vie, et qu'une fois en haut, elle est amenée à redescendre. Et donc l'éternel retour chez Nietzsche, qu'on retrouve dans le Zarathoustra, puisque c'est l'idée du Zarathoustra en définitive, nous appelle à chercher l'Orient, désorient, pas tant à l'extérieur, dans l'espace physique qui certes existe mais n'est pas atteignable, mais en soi-même. C'est le dépassement de soi chez Nietzsche.
Je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Chant de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu.
Vous avez tous reconnu Michel Fugain, Fait comme l'oiseau, une chanson de 1974. Merci beaucoup Michel Lussault et Pierre Souk, j'ai trouvé ça très riche, cette discussion sur l'orientation, ses difficultés et ses charmes. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Maintenant, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la peur et aux dangers aussi que peut générer la peur elle-même. Voici le pourquoi du comment.
Comment la terreur aggrave-t-elle la peur ? La peur n'est pas un sentiment agréable, elle est même nécessairement pénible. C'est un mécanisme qui nous fait agir en nous faisant craindre une souffrance à venir et qui déjà est en lui-même donc une sorte de souffrance, puisque la représentation de la souffrance à venir doit être un peu pénible pour nous permettre de l'éviter. La peur est donc déjà une douleur. La peur est une douleur pour en éviter une encore pire en quelque sorte, et elle doit être utile pour être utile, discriminer justement entre les objets qui nous font peur légitimement et ceux qui ne doivent pas nous faire peur. Mais le risque de la peur, c'est qu'elle soit encore plus grave qu'elle-même, encore plus grave que ces objets, qu'elle se déborde, on le sait, du côté de l'angoisse, quand elle devient la peur sans objet, la peur de tout, la peur de rien, la peur d'exister, la peur du vide, la peur de nous-mêmes, en quelque sorte. Mais il y a une autre forme encore d'aggravation de la peur, et c'est ce qu'on appelle la terreur. La terreur, ce n'est pas la peur du rien, ce n'est pas la peur du néant, ou de la mort en général, ou de l'avenir, ou de l'angoisse de la liberté. La terreur, c'est plutôt la peur indiscriminée, la peur que n'importe quel objet puisse devenir un danger, la peur qu'à tout moment, sans aucun cadre prévisible, quelque chose nous tombe dessus ou quelqu'un nous attaque de l'extérieur. La peur est toujours manipulable, en effet, et les êtres humains la manipulent, par exemple pour chasser des êtres vivants ou même pour agir sur les autres êtres humains. Mais la terreur, c'est-à-dire le mécanisme qui consiste non pas à nous protéger mutuellement en définissant des cadres communs qui définissent les objets légitimes de peur et les autres qui permettent de nous rassurer sans entrer dans le déni de la peur, eh bien, au contraire, la terreur, au lieu de construire ces cadres protecteurs communs qui nous permettent de délimiter les objets légitimes de peur et les autres, la terreur, au contraire, abolit tous les cadres. Elle fait qu'une société tout entière, sans construire un cadre pour éviter les mauvaises peurs, devient obsessionnellement dangereuse. Tout peut survenir à tout moment. Non seulement il n'y a pas de protection, mais les cadres qui devraient protéger deviennent menaçants. C'est alors la terreur politique. La terreur est donc la peur indiscriminée. Indiscriminée d'abord parce que peut-être le nourrisson, par exemple, terrifié dans cette détresse initiale où il n'a encore aucun repère, ne sait pas distinguer les raisons de sa peur, les objets bons ou mauvais, et l'éducation va le lui apprendre. Mais la terreur indiscriminée, quand justement tous les repères s'effondrent, quand ce qui nous protège d'abord contre la peur et contre le redoublement de la peur, c'est-à-dire l'apprentissage des repères du monde, de ce qui nous rassure et de ce qui nous effraie, quand tout cela est détruit délibérément ou par accident. L'usage délibéré de la peur, ce qu'on appelle le terrorisme, mot qui lui-même, évidemment, nous fait peur, qui est un des dangers extrêmes entre les êtres humains et dont les êtres humains s'accusent parfois mutuellement, l'usage délibéré de la peur indiscriminée, c'est bien ce qu'on appelle la terreur. Or, pour éviter la terreur, pour répondre à la terreur, il y a une chose qui est nécessaire. C'est bien de délimiter ce qui fait peur et ce qui ne fait pas peur, les bons et les mauvais objets de peur, et en admettant évidemment le négatif, en admettant qu'il y a aussi des peurs légitimes, qu'il y a des dangers réels, par exemple, non seulement objectifs, la maladie ou le froid, mais aussi subjectifs, la guerre ou l'agression. Il y a eu des terreurs dans l'histoire aussi, par excès de bons sentiments. La terreur de la Révolution française, dit Hegel, est celle qui n'acceptait pas le mal, et c'est la terreur produite par l'obsession de la perfection. Qu'il s'agisse de voir le mal partout ou nulle part, la terreur est l'exagération mortelle de la peur.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'appli Radio France ou sur le site franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Anna Felpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Axel Dubois, Chaïma Giboire, Armance Bourquin, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.